je passe à la présentation de notre conférencier de ce soir. Il s'agit de Didier Schmidt, qui est chef d'unité des sciences du vivant à l'Agence spatiale européenne. Il est né en 1962. Il est docteur en immunologie et pharmacologie de l'Université de Strasbourg, 1990, et docteur en médecine de l'Université de Toulouse, 1992. Il est diplômé en médecine d'urgence et en médecine aérospatiale, diplômé de l'Université internationale de l'espace. Pendant 4 ans, il a été assistant hospitalo-universitaire, puis responsable d'expérience en environnement extrême et dans l'espace, vol parabolique et fusée-sonde, mission de navette spatiale. Depuis l'an 2000, Didier Schmidt est responsable des programmes des sciences du vivant à l'Agence spatiale européenne, chargé de la stratégie et de la planification des programmes. Je lui laisse donc la parole pour une cinquantaine de minutes, et puis ensuite je reviendrai au moment des questions. Merci.
Bonsoir mesdames et messieurs, je suis ravi que vous soyez venus aussi nombreux, et je vois que dans la salle il y a presque plus de femmes que d'hommes, ce qui est une bonne nouvelle. Donc l'exploration continue d'intéresser. Je vais faire un peu un tour d'horizon sur ce qui est l'exploration, et en fait je vais peut-être vous surprendre un petit peu par certaines par certains aspects de mon exposé, puisque c'est pas un exposé classique typiquement sur l'exploration, uniquement sur l'exploration, ce dont vous avez l'habitude d'entendre ou de parler à la télé. Donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu le scénario que je vous ai préparé. D'abord répondre à la question pourquoi est-ce qu'on explore, quels sont les challenges. Ensuite, donc, comment est-ce qu'on passe de la fiction à la réalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau des vols habités. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui circulent à ce propos. Par contre, il y a beaucoup de choses qui se font et qui ne sont pas très connues, c'est-à-dire comment on utilise les simulateurs ou les systèmes analogues pour préparer les futures missions, et surtout les missions vers Mars. Donc ça, on en parlera aussi. Évidemment, un petit peu de pessimisme, mais il y a quand même de l'arrière-pensée dans toutes ces affaires-là. Et un peu d'optimisme à la fin pour voir un peu les applications un peu plus terre-à-terre. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vous ai dit que je voulais vous surprendre un petit peu, effectivement, puisque je pense que si on s'adresse pas à toute la problématique de l'évolution, on ne peut pas vraiment comprendre pourquoi l'homme est un explorateur. Je pense que toutes les espèces sur Terre ont été sélectionnées parce qu'elles avaient cette génétique en elles d'explorer. Évidemment, l'explorateur par excellence est Homo sapiens, puisque sans lui, déjà on ne serait pas là. Et ensuite, c'est lui qui a exploré le plus, si on veut dire, notre Terre. Et heureusement, parce que les changements climatiques qui sont survenus lui ont permis de survivre. Et on serait évidemment pas là aujourd'hui pour en parler si cela n'était pas arrivé. Donc c'est vraiment une question de survie, une question de génétique qui explique certainement beaucoup de choses dans nos comportements d'explorateurs. Alors comment est-ce qu'on passe de l'exploration en deux dimensions, donc par les hominidés et d'autres espèces, à l'exploration plutôt en troisième dimension? Eh bien, relativement vite. Il est évident que les hominidés ont vécu sur Terre pendant 1 million d'années en se déplaçant avec leurs jambes, pas plus. Et ensuite, avec l'avènement des technologies donc de transport, essentiellement au niveau maritime, on assiste évidemment à une exploration qui est très différente. Donc l'exploration des conquérants, comme Alexandre le Grand, Christophe Colomb, évidemment. Et ensuite, donc, les choses s'accélèrent. L'exploration donc des continents Amérique du Nord, Amérique du Sud, l'Afrique. Et ensuite, les choses s'accélèrent encore plus, puisque avec l'avènement de l'aviation, les gens circulent plus, donc explorent plus, beaucoup plus loin. Et évidemment, il a fallu moins de 100 ans entre le premier avion et le premier homme sur la Lune. Donc c'est un pas de géant qui a été fait. Alors vous voyez ici au milieu donc une photo que j'aime bien. En fait, c'est une carte postale. Qui représentent donc 4 explorateurs du Klondike qui cherchait de l'or, donc au nord du Canada. Ils ont un moyen de transport assez rudimentaire, mais ils se sont protégés donc contre les événements météorologiques, la pluie, etc. Et eux-mêmes portent ce qu'on pourrait croire être un masque ici, en fait, c'est des moustiquaires. Et donc on peut mettre ça en parallèle avec l'exploration lunaire ou martienne, ce qui est assez intéressant 200 ans après. Donc à peu près des choses très, très similaires. Alors on a évidemment voyagé dans nos têtes beaucoup plus tôt que ça, puisque même en l'an 165 avant Jésus-Christ, les premiers récits sont apparus de l'exploration de la Lune. Alors les moyens étaient un peu tirés par les cheveux évidemment, puisqu'il s'agissait par exemple de chevaucher un jet d'eau pour atterrir sur la Lune. D'autres récits ont suivi. Vous voyez ici à gauche une représentation assez intéressante. Donc l'auteur a décrit une espèce de vaisseau pas très sophistiqué, mais quand même pour l'époque c'était déjà pas mal, et il a dressé des oies pour aller sur la Lune, et le récit continue avec l'aventure lunaire. Donc assez intéressant. Je ne vous présente pas Jules Verne de la Terre à la Lune. Évidemment vous connaissez tous les récits de science-fiction des années 50, quand la technologie a fait un bond en avant et quand on savait qu'on pouvait quitter la Terre avec les fusées, bon, qui étaient dédiées à autre chose à l'époque, mais donc cela fait exploser donc tous les récits de science-fiction. Juste pour illustrer aussi donc Tintin, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, 1953, donc bien avant le premier pas sur la Lune, bien avant le premier homme en orbite. Tout ça pour vous dire que la science-fiction a toujours fasciné, et je pense qu'on peut revenir ici aussi au gène de l'explorateur, d'Homo sapiens. On a besoin de ce genre de rêve, ça fait partie de notre héritage. Alors évidemment le cinéma n'a jamais été en reste. Un rappel pour ceux qui ne savent pas, donc Méliès 1902, Voyage vers la Lune, et donc assez curieusement, donc le cinéma apparaît et l'un des premiers films, c'est l'exploration de la Lune. Assez curieusement. Bon, je vous passe les détails sur les Star Trek, qui est plutôt ma génération, Odyssée de l'espace et d'autres. Donc encore une fois, pareil, le cinéma nous fait rêver parce qu'on a besoin de ce genre de choses. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les choses concrètes, donc au niveau scientifique. Il est évident qu'on n'explore pas simplement comme ça l'espace, vu ce que ça coûte, pour le plaisir d'explorer. Il y a évidemment des aspects scientifiques derrière que je vais vous décrire un tout petit peu. Alors, en orbite basse, ce qui est important, c'est le phénomène d'impesanteur. Donc ça, vous le savez à peu près. On pourra y revenir tout à l'heure durant les questions. Alors, c'est un phénomène assez intéressant du point de vue physique. Pour l'illustrer, je vous ai mis ici une photo d'une flamme à gauche, donc sur Terre, qui est la forme classique du fait de la convection. Donc l'air chaud va monter et va donner cette forme pointue à la flamme. Par contre, si vous n'avez pas de pesanteur, il n'y a pas de convection thermique. Donc cette flamme va rester ronde, et en plus vous voyez qu'elle est bleutée, donc la combustion est en fait différente aussi. Alors les mêmes phénomènes peuvent être observés dans le domaine de la physique des matériaux. Vous pouvez mélanger des fluides qui ne se mélangent pas sur Terre, puisqu'il n'y a pas cet effet de gravité qui vont les séparer. Et vous savez aussi donc que en impesanteur, les phénomènes physiologiques, donc de changement au niveau de l'organisme, sont assez importants, au niveau osseux, au niveau neurosensoriel, au niveau cardiovasculaire. Donc ce sont tous ces phénomènes-là qu'on peut étudier en quittant la Terre et en tournant autour de la Terre et en restant en impesanteur. Quand on parle de l'exploration plutôt lunaire ou d'autres planètes comme Mars, évidemment, ce ne sont pas les mêmes phénomènes qu'on recherche. Pour la Lune, donc l'exploration lunaire a permis de mieux comprendre l'origine de notre univers. Quand on ira sur Mars, et on y est déjà évidemment avec des robots, c'est pour étudier les phénomènes de changement de la planète, comment l'eau a pu disparaître sur Mars. Est-ce que la vie a apparu ou pas? Très certainement. Donc ce sont d'autres questions qu'on se pose à ce moment-là. Alors il n'y a pas que la science, il n'y a pas que le rêve, il y a d'autres d'autres phénomènes qui interviennent, mais on va en parler un petit peu plus tard. Alors la deuxième partie donc de l'exposé, c'est de passer, de vous expliquer un petit peu plus en détail comment on passe donc à cette réalité et quel est l'état des lieux entre guillemets des vols habités aujourd'hui. Donc voici une photo relativement récente de la station spatiale. Alors pour vous donner une idée des dimensions, ces panneaux solaires font à peu près 80 mètres d'envergure. Ça correspond à l'envergure de l'Airbus A380, ce qui est assez impressionnant. Ce que vous voyez donc en dessous, ce sont des différents modules donc d'habitation, avec des radiateurs, des vaisseaux Soyouz pour amener des cosmonautes depuis le Kazakhstan, et des vaisseaux Progress pour amener du ravitaillement. Et la navette aussi, bien sûr, peut se rattacher sur cette station. Voici juste une petite animation. Donc celle-là, ce n'est pas un film, c'est une animation qui a été réalisée parce que la station n'a pas encore cette tête-là aujourd'hui. On va voir tout à l'heure un peu plus dans le détail. Voilà, un petit peu plus d'explications tout à l'heure. Voilà. Alors, donc cette station, elle n'est pas terminée. Elle sera terminée d'ici 3 ans. L'assemblage a commencé il y a 9 ans. Et nous avons déjà participé énormément en tant qu'Européens à l'installation de ces modules. Et essentiellement, nous avons jusqu'à présent fait voler plus d'une douzaine d'astronautes à bord, ce qui est quand même un record, sachant que nous n'avons pas l'accès directement, l'accès au vol habité direct. Donc notre lanceur Ariane 5 n'a pas la capacité, pour des raisons donc historiques, d'emmener les hommes dans l'espace. Donc nous sommes tributaires des lancements américains, donc avec la navette, et des lancements russes, que nous utilisons du mieux possible. Alors, il n'y a pas que les vols habités, donc, les vols, si vous voulez, que nous utilisons pour aller vers les stations avec les astronautes. Nous participons aussi à la station spatiale par le ravitaillement. Vous voyez ici quelques photos donc du véhicule de transfert automatique, qui est un véhicule assez intelligent, puisqu'il va se connecter automatiquement à la station spatiale. Et le premier lancement, on l'attend avec impatience. Il devrait se faire donc fin de cette année. C'est un vaisseau qui peut amener plusieurs tonnes de ravitaillement. Vous allez le voir juste à la fin de la station là, avec cette simulation. Et donc c'est une grosse participation de l'Agence spatiale européenne à cette aventure donc, qui est en permanence au-dessus de nos têtes. Donc voilà, ça, on va le voir en réel d'ici la fin de cette année. Alors en 2010, vous savez aussi certainement que la navette américaine ne volera plus. Et donc il va falloir absolument terminer cette station pour à ce moment-là, pas plus tard que cela. Ici vous avez une vue donc de ce que ça devrait être. Alors il y a certains éléments qui n'y figureront plus, comme tous les programmes, il y a eu des difficultés, il y a eu des coupes sombres aux États-Unis. Mais ce que vous voyez en bleu, c'est la contribution européenne. Alors malgré le fait que nous ne contribuons financièrement qu'à moins de 10% à cette station, nous avons quand même fait un travail assez important. Et vous voyez que tout ce qui est en bleu a été fabriqué en Europe, par exemple. Et le laboratoire que vous voyez donc en bas là, à gauche en bleu, et le laboratoire Columbus qui sera aussi lancé fin de cette année et qui va donc s'arrimer à la station. Il va être emporté par la navette américaine et il va être docké donc au niveau de la station. C'est une très grosse contribution européenne à cette initiative internationale. Alors, tout le monde se demande évidemment ce qu'il y a à l'intérieur de ce bidon. Alors, il y a beaucoup de choses. Des instruments extrêmement complexes puisque le coût de l'emport et le coût de ces missions est quand même assez important, donc il faut les rentabiliser au maximum. Alors vous voyez en haut à gauche un instrument par exemple qui permet de, de cultiver des cellules, de cultiver même des, ce qu'on appelle les plantes supérieures, puisque tous ces organismes se comportent assez différemment en impesanteur, et c'est des choses très intéressantes à étudier. On ne peut le faire sur des longues durées donc qu'en impesanteur autour de en orbite terrestre. Beaucoup d'autres expériences sont réalisées dans le domaine donc des fluides, de la combustion, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et plus de 50% des activités concernent tous les aspects médicaux, donc comment l'organisme s'adapte à cette impesanteur. Et donc vous voyez ici par exemple en bas au milieu des expériences donc dans le domaine neurosensoriel. À droite, un appareil assez sophistiqué donc pour toutes les mesures cardiovasculaires et cardio-respiratoires. Alors, les astronautes sont très souvent non spécialistes, donc il faut les entraîner, il faut que les systèmes soient pas trop compliqués quand même d'utilisation, mais derrière la complexité est très souvent présente. Alors, ce qui veut aussi dire, reviens un petit peu en arrière. Donc, un autre aspect évidemment des vols spatiaux, c'est les sorties extravéhiculaires qui sont assez intéressantes du côté exploit, puisque un individu donc qui flotte là autour de cette station est en fait un satellite par lui-même, s'il n'était pas rattaché par un tout petit cordon pour ne pas s'échapper et être perdu. Et c'est une expérience assez intense et importante, en sachant que donc une sortie extravéhiculaire dure à peu près 8 heures. Et pendant ces 8 heures, toutes les 45 minutes, on passe du jour vers la nuit. Donc ils font une orbite toutes les 90 minutes, ce qui est assez intéressant, si on en croit donc tous les récits évidemment de nos collègues qui ont pu avoir cette expérience. Alors, donc, ça veut dire aussi que l'entraînement est très intensif. Pour vous donner un ordre de grandeur, il faut à peu près 3 ans pour entraîner correctement un astronaute, et c'est le minimum actuellement. Alors, vous voyez ici en bas à gauche, Léopold Eyertz, qui est en train de se familiariser avec des senseurs, qui vont mesurer les rayons solaires, les flux solaires et les rayons cosmiques. Ça va être de plus en plus compliqué quand on fait des sorties extravéhiculaires, quand on est programmé pour faire ce genre de travail. Il faut passer des centaines d'heures donc sous l'eau dans des énormes piscines, soit en Europe, soit aux États-Unis, soit à Moscou, à la Cité des Étoiles, pour s'entraîner dans le moindre détail, parce que là on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est des choses extrêmement compliquées, puisque rien que la survie et le travail à l'extérieur est extrêmement prenant. Donc un autre aspect, évidemment, c'est tout l'entraînement pour les instruments dans le domaine biomédical, mais pas seulement, puisque les astronautes servent avant le vol de cobayes. Donc il y a beaucoup de mesures qui sont faites sur eux avant le vol, et les mêmes mesures sont faites pendant le vol. Alors en bas à droite, vous voyez aussi un entraînement sur les procédures de vol. Alors il est très compliqué de maintenir une station. Donc il n'y a pas que les expériences, mais plus de la moitié du temps d'astronaute est consacré à la maintenance d'un engin qui est assez compliqué. Alors bon, 3 ans d'entraînement minimum. Il faut savoir qu'un astronaute sélectionné ne vole pas tout de suite. Le record, c'est 19 années d'attente. Bon, alors, c'est pas toujours très drôle, mais vous voyez ici sur cette même photo Christophe Fugelsang, qui est un astronaute suédois. Il a été sélectionné en 92 donc par l'agence, et il n'a volé que l'année dernière. Donc il a passé quand même pas mal de temps à s'entraîner. Et bon, par contre, il a fait un vol excellent avec une sortie extravéhiculaire. Alors tout ça pour dire qu'effectivement c'est une aventure assez extraordinaire, non seulement pour les astronautes, mais aussi pour toutes les personnes qui travaillent autour de ce type de mission. Il faut savoir par exemple que à peu près 1 millier de personnes travaillent sur un vol de mission américaine. Donc, vous comprenez bien que quand il y a, le jour où il y a des accidents comme Challenger et Columbia, ça fait quand même des dégâts au moral, non seulement au corps des astronautes, mais aussi à toute la communauté qui travaille dans ce domaine. Et donc, évidemment, vous avez peut-être fait le calcul un jour, mais il y a eu à peu près 140 vols de navettes. Il y a eu 2 fatalités, ça fait quand même 1 sur 70. Le risque est quand même très élevé. Donc, c'est pas toujours très joyeux quand on pense à ce genre de problème. Mais ça fait partie de l'aventure. Donc on arrive à peu près au milieu de la présentation et je vais vous montrer maintenant des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir. Quelles sont les situations que nous utilisons, soit que nous créons, soit qui existent déjà, pour préparer ce genre de mission, et pas seulement les missions vers la station spatiale, mais plutôt les missions à très long terme, comme on le verra tout à l'heure. Alors, quelque chose que vous connaissez peut-être, parce qu'on l'a un petit peu médiatisé, ce sont les expériences qu'on appelle d'alitement. On a mis ici, on a battu un record, donc, à l'Institut de médecine spatiale à Toulouse, au MEDES. On avait 25 sujets, donc, des hommes, qui étaient alités pendant 90 jours non-stop. La tête à moins 6 degrés, donc la tête vers le bas. Donc ces personnes-là font cela parce que ce qu'on appelle le déconditionnement, donc chez l'astronaute, la perte de masse osseuse, masse musculaire, etc., se produit aussi quand vous êtes alité pendant une très longue durée. Et donc les phénomènes sont très similaires et c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour reproduire les effets qui se font sentir chez les astronautes. Alors, quand je vous dis qu'ils sont allongés 90 jours non-stop, c'est effectivement vrai. Vous voyez donc en haut à gauche une personne prenant une douche dans un bac qu'on prend généralement à l'hôpital pour les gants brûlés. Donc même pour la douche, pour la toilette, toujours allongé, pour manger aussi, même la tête en bas. Ceux qui ont la chance de faire de l'exercice musculaire, puisqu'on fait des comparaisons entre des personnes qui peuvent faire de l'exercice et d'autres qui n'en font pas, même ces exercices-là sont réalisés couchés et toujours à moins 6 degrés. Alors, le jour où on s'est posé la question et où j'ai proposé de faire les mêmes expériences sur les femmes, mon conseil scientifique m'a été assez réticent et je peux dire que je n'ai pas eu beaucoup de soutien. Mais comme je suis un peu perspicace, on l'a fait quand même. Et effectivement, il n'y avait pas de raison vraiment de ne pas le faire. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des expériences dans le domaine pharmacologique ou même de recherche fondamentale dans le domaine médical sont faites sur les hommes. Ce qui veut dire que quasiment tous les médicaments sont testés sur les hommes, alors que les femmes les prennent aussi. Et l'autre raison est évidente, il y a de plus en plus d'astronautes femmes, donc il n'y a aucune raison pour ne pas avoir des données sur les femmes aussi. Et évidemment, la physiologie, comme vous le savez, de la femme et de l'homme est quand même relativement différente. Et on a trouvé vraiment de très fortes différences. Alors, il y a aussi une différence de comportement. Alors, cette photo est assez intéressante. Si vous la comparez à la photo en haut à droite, donc les hommes qui étaient assez spartiates, ils avaient leur ordinateur et ça leur suffisait. Les femmes, il fallait qu'elles aient tout autour d'elles, du maquillage ou pouvoir se faire un thé quand elles voulaient, etc. Elles ne voulaient pas être assistées par les infirmières. Donc, dès le troisième, quatrième jour, elles ont demandé à tout changer dans les chambres, alors que les hommes, on leur donnait ce qu'il fallait, et c'était parti pour 90 jours. Donc, assez intéressant, donc non seulement dans le domaine médical, mais aussi comportemental. Alors, d'autres situations que nous avons utilisées déjà dans le passé, qu'on continue d'utiliser, ce sont par exemple des chambres hyperbares. Et là, évidemment, ce n'est pas pour simuler tous les aspects d'un pesanteur, c'est pour simuler l'isolation, l'isolement et le confinement des personnes, donc sur des périodes qui peuvent être assez longues, comme on le verra. Donc là, on utilise simplement ces chambres-là pour mettre les gens en caisson. Alors là, par exemple, on a fait des expériences de 28 jours, et puis de 60 jours, et on a fait des expériences, donc je vous en cite une ici, d'éthologie, donc de comportement. Et vous voyez qu'en haut, donc, on avait 5 hommes qui étaient en confinement pendant 28 jours. Et les flèches montrent les interactions entre les différents individus. Alors, vous voyez très bien que déjà à mi-chemin, mais en tout cas au 26e jour, il est assez clair. Par exemple, l'individu D n'avait plus aucune interaction avec ses collègues. Donc si ce genre de choses se produit sur des missions beaucoup plus longues vers Mars, ça peut mal se passer. Donc ça nous permet de et les gens savent qu'ils sont étudiés, observés, hein, donc ils ne font pas un effort pour autant. Je veux dire, ce sont les relations humaines qui sont comme ça. Et donc ça nous permet de voir si certaines circonstances peuvent être prédictibles et comment est-ce qu'on peut, avec l'entraînement, avec la sélection, essayer de modifier ce genre de dérive. En dessous, vous voyez donc 3 hommes, une femme en confinement pendant 60 jours. Et donc, au bout de la 9e semaine, donc beaucoup plus d'interactions entre 2 individus qui se sont quasiment séparés de l'autre groupe. Donc, ça aussi, c'est des choses qui arrivent et qui sont assez néfastes pour le déroulement d'une mission. Puisque quand il y a des clans qui se forment, c'est pas très bon. On le savait un petit peu par avance, puisque les psychiatres et les psychologues nous disent toujours qu'il ne faut jamais avoir un nombre pair d'individus, puisqu'ils peuvent se scinder. Alors que quand il y a un nombre impair, il y a toujours un groupe qui sera leader, etc. Donc ça, effectivement, ici, on a pu le constater. On est allé un peu plus loin que cela. On a fait des études de 90 jours et ensuite on a participé à une étude assez intéressante qu'ont réalisé les Russes et qui a duré donc pour le maximum équipage donc de 4 personnes 240 jours d'isolation dans un simulateur. Ce qui était intéressant, c'est que en plus de cette phase donc de 240 jours, il y a eu 2 phases de 110 jours. Avec des équipages différents, ce qui représente un petit peu ce qu'on fait en ce moment avec la station spatiale. Certains astronautes restent longtemps et d'autres un peu moins longtemps. Et il y a aussi ce qu'on appelle les équipages visites qui restent très peu de temps. Par exemple, une navette qui accoste, qui ramène du ravitaillement ou qui ramène un module, mais qui ne reste qu'une dizaine de jours. Donc la composition d'équipage était assez intéressante et pas forcément volontaire. Je pense que pour les 240 jours, les Russes n'ont pas trouvé beaucoup de volontaires en dehors des gens qu'ils avaient. Pour les missions de 110 jours, la première, donc il y avait 3 Russes et un Allemand. Il faut préciser que c'est un Est-Allemand qui parlait parfaitement le russe, donc très bien intégré. Ça s'est très bien passé. Le groupe 3 qui a suivi, vous voyez qu'il y avait un Russe, un Japonais, un Autrichien et une Canadienne. Alors, 2 choses, donc déjà multiculturelles, 3 hommes, une femme, et avec un background, je dirais, extrêmement différent, et culturellement évidemment aussi. Donc très intéressant. Alors, il s'est évidemment passé des choses, peut-être que vous en avez entendu parler, la nuit de Saint-Sylvestre, donc... un individu que je ne citerai pas a approché un petit peu trop la jeune femme en question. Et bon, ça n'a pas fait un gros problème sur le coup, mais évidemment, ce sont des petits problèmes qui, au bout de 15 jours, 3 semaines, 2 mois, s'encapsulent et deviennent assez intolérables dans un environnement complètement confiné. Donc quand la personne ne peut pas parler à quelqu'un d'autre, quand sociologiquement elle est isolée, assez mal passé, et donc la presse en a eu vent. Il y a à peu près une cinquantaine d'articles dans des journaux canadiens sur ce genre d'événement, donc c'était assez intéressant de ce point de vue là. Bon, il n'y a pas eu de dommages hein, à part ça, mais ça montre quand même que des petits problèmes peuvent prendre une ampleur assez phénoménale pour des questions de culture nord-américaine dans ce cas là culture russe qui est très différente. Et si on ne découvre pas ce genre de problème, si on ne peut pas le traiter à distance, ça peut être catastrophique pour une mission. Voilà, alors quelques photos donc de ce simulateur que vous voyez à gauche, donc qui est à Moscou, qui est quasiment au centre de Moscou, à l'Institut des problèmes médico-biologiques. Et vous voyez donc la photo du bas avec l'équipage. Donc qui était le dernier équipage avec un Russe, un Japonais et donc la jeune femme canadienne. Vous voyez que c'est l'endroit ici qui est le plus, je dirais, le plus large. Le reste est beaucoup plus confiné que ça. C'est un endroit qui fait donc salon, salle à manger, bureau et zone d'entraînement physique. Donc c'est assez restreint. J'ai eu donc le privilège de pouvoir y passer une semaine. Et donc c'était une expérience assez intéressante, évidemment trop courte. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on était dans l'équipe avec un équipage qui, en haut à gauche, donc vous voyez Monsieur Polyakov, est-ce que j'ai le... Voilà, Valérie Polyakov, donc qui est le recordman absolu de la durée de séjour dans l'espace, puisqu'il a passé 439 jours d'affilée dans la station Mir. Je pense que ce record-là ne sera jamais égalé. Pourquoi 439 jours? Ça fait 14 mois, ça fait à peu près l'aller-retour sur Mars. Les Russes voulaient prouver qu'on pouvait le faire. Et je peux vous dire qu'il est revenu en très bonne forme. Donc c'est des gens qui savent faire. Voilà, alors ces simulateurs ne sont pas parfaits, et chacun a ses avantages et ses inconvénients. C'est pour ça que nous avons lancé des études en Europe, pour faire donc l'ultime simulateur où on pouvait intégrer énormément d'aspects. Le support vie, on verra un petit peu tout à l'heure, les aspects psychologiques, les aspects de télémédecine, enfin tous les aspects d'une mission, y compris les sorties extravéhiculaires et des sorties dans un environnement donc martien, par exemple. Donc c'est des études que nous sommes en train de mener, et j'espère que d'ici quelques années, on aura ce simulateur qui nous permettra de faire un pas beaucoup plus important que ce qu'on peut faire maintenant avec ce qui existe, par exemple, en Russie. Alors on passe à un autre sous-chapitre donc de ces environnements qu'on appelle ici des environnements analogues. L'Antarctique, comme je vous le montrais, est un excellent environnement analogue, par exemple, pour les futures missions martiennes. Alors l'exploration de l'Antarctique a commencé comme il y a pas mal d'années. En 1957, donc année polaire internationale, les Français ont fait leur premier hivernage. Et vous voyez ici quelques photos. Donc de l'époque. J'ai eu le plaisir récemment de rencontrer Monsieur Roland Schlich, l'une des trois personnes qui a passé donc plus de 12 mois là-bas, et en tout cas plus de 10 mois dans cet habitacle ici, assez loin des côtes. Il est en train de trouver les fonds pour réaliser son film. Il a énormément de séquences qui sont extrêmement intéressantes, donc il date de 50 ans. Et donc j'espère que bientôt on pourra voir ce film-là sur les écrans. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, donc 2007, 50 ans après? Il y a une nouvelle station donc en Antarctique qui s'est construite, qui a ouvert ses portes, entre guillemets, il y a 2 ans. Il s'agit de la station Concordia, c'est une station franco-italienne. Alors, vous la voyez ici. Elle se trouve à peu près 1200 km donc de la base côtière française de Terra Adeli, et à 1200 km de la base Terra Nova Bay, donc la base côtière italienne, base française qui est occupée en permanence depuis 50 ans. Donc ça c'est assez intéressant, alors que les Italiens ne passent que l'été, entre guillemets, là-bas. Alors vous voyez, et tout de suite vu à gauche, les conditions extrêmes dans lesquelles on se trouve. Donc quand il fait le plus chaud l'été, il fait une moyenne de moins 30. Et la moyenne d'hiver est de moins 60. Et le record, donc il y a 2 ans, moins 84 degrés. Donc vous comprenez que les gens ne sortent que quand il le faut dans ces conditions-là. L'autre intérêt de la base, donc pour nous, c'est qu'on a un taux d'oxygène qui est assez bas. Ce qui est intéressant parce que sur une mission, soit une base lunaire, soit une base martienne, moins on a d'oxygène dans l'habitacle, mieux c'est pour des histoires de structure, puisqu'il y a le vide de l'autre côté. Donc, autrement, on a des problèmes un peu plus compliqués, structurels, si on doit se mettre à une atmosphère de pression à l'intérieur. Donc là, on peut étudier, par exemple, la chronicité donc de l'hypoxie, hein, donc manque d'oxygène. Donc l'autre aspect intéressant, c'est que la durée de séjour varie entre 12 et 14 mois pour les hivernants. Il y a évidemment des équipes qui arrivent l'été, entre guillemets, hein, l'été à moins 30 degrés, pour le ravitaillement, etc., mais qui repartent au bout de 2 mois. Mais ceux qui restent, ils passent jusqu'à 14 mois dans cette station. Et sur ces 14 mois, il y a 9 mois où on ne peut pas aller, y aller ou revenir. C'est-à-dire que s'il y a un gros problème, ils savent qu'on n'enverra pas de secours. Parce que de toute façon, aucun moteur diesel ne peut redémarrer à cette température-là. Il serait beaucoup trop dangereux pour les équipes de secours. Enfin, on prendrait beaucoup plus de risques que le bénéfice qu'on pourrait éventuellement retirer. Vous avez peut-être entendu parler, il y a à peu près 5 ans, la station donc pôle sud des Américains, et donc une femme qui a été détectée avec un cancer du sein à peu près à mi-chemin, à peu près à 6 mois pendant son séjour de 12 mois. Il n'y avait pas tous les outils pour faire une biopsie, etc. Il n'y avait pas d'échographie. L'armée américaine a essayé de faire un largage basse altitude de matériel qui a échoué. Et donc, cette femme est restée avec son problème, qui était aussi évidemment psychologique hein, à ce moment-là, 6 mois de plus avant de pouvoir être prise en charge pour son problème de cancer. Donc vous voyez, c'est vraiment la réalité. Là, on ne fait pas de simulation. Les gens qui vont là-bas, ils sont vraiment en condition, comme on dit. Et donc ça nous intéresse beaucoup, parce que dans les simulateurs que vous avez vus, bon, s'il y a un gros problème, les gens sortent, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, alors en ce moment, il y a 12 personnes sur place. L'Agence spatiale européenne participe donc à ces expéditions. On a une personne sur place, donc parmi les 12 en permanence. Et il y a donc 2 femmes et 10 hommes, et ça se passe, je dois dire, assez bien. Et c'est la 2e année consécutive donc que la base est occupée. Alors, juste pour préciser, c'est pas une base qui est dédiée à la recherche spatiale. Nous profitons de cette base, qui est donc dédiée essentiellement à la recherche dans le domaine de la glaciologie, météorologie, etc. C'est essentiellement donc l'Institut français de recherche polaire, l'IFRTP, et qui s'occupe de la logistique. Alors, faisons un pas de plus maintenant. Comment va-t-on faire et comment se prépare-t-on maintenant un petit peu plus pour les missions martiennes? Alors ça, évidemment, ça on connaît. Alors vous allez me dire, effectivement, on était sur la Lune. Bon, Mars, c'est peut-être pas beaucoup plus compliqué. Alors c'est quand même un peu plus compliqué. Je pense que si on fait une analogie avec, je sais pas, quelqu'un qui va aller faire du camping sur une colline pendant un jour. Voilà, là, on a le son entre les 2 astronautes américains sur la Lune. Se sont amusés aussi, ça fait partie de... Voilà. Donc c'est pas très compliqué, hein. Mais bon, il faut savoir que... Ah, désolé. Là, ça semble assez simple, mais le challenge qu'ont eu les Américains à l'époque était quand même phénoménal. Ils ont eu une bonne partie de chance. Les Russes n'étaient pas loin derrière. À l'époque, il y avait quand même 300 000 personnes qui ont travaillé sur ce genre de programme. Et ça a failli mal tourner, vous le savez, Apollo 13, mais il y en a eu d'autres problèmes qui ont été moins médiatisés. Donc c'était toujours ric-rac, comme on dit, hein, c'était pas évident. Alors pour l'anecdote, donc la personne là à côté de ce rocher s'appelle, comme moi, Schmidt. C'était le seul scientifique qui était sur la Lune parmi les 12. Alors il n'est pas en train de faire ses besoins derrière le rocher. Il aurait du mal parce que quand on est à l'ombre sur la Lune, il fait à peu près moins 120 degrés. Et donc son dos qui est au soleil, il fait à peu près plus 130 degrés. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et quand vous voyez une ombre très noire, vous ne voyez rien dans une ombre sur la Lune, puisque pareil, il n'y a pas de réflexion et il n'y a pas d'atmosphère. Donc on a appris des choses, surtout au niveau de la poussière, par exemple. Au bout de 24 heures, tous les astronautes avaient des irritations pas possibles au niveau oculaire. Ils n'auraient pas pu rester une semaine. Il y avait de la poussière partout qui était ramenée par les scaphandres, des choses qui n'étaient pas prévues. Donc on a appris des choses, mais ce n'est pas suffisant. Je continue donc mon analogie. Si vous allez faire du camping sur une colline pendant un jour, ça c'est l'expédition lunaire. Si on vous demande d'aller sur l'Everest pendant un an, ça c'est Mars. Donc vous voyez qu'il y a quand même à peu près, je pense, un facteur 100 de plus de complexité à réaliser ce genre de mission. Alors, on connaît évidemment moins tous les aspects donc d'une mission martienne, puisque pour l'instant on connaît pas mal de choses, donc on peut faire de la prédiction, etc. Vous avez vu les simulations qu'on peut éventuellement faire, mais bon, on est encore loin d'approcher la réalité de ce genre de mission. Alors par contre, ça intéresse énormément nos ingénieurs. Donc ils sont toujours sur leur planche à dessin. Il y a beaucoup de scénarios qui ont été faits et qui ont été poussés assez loin. Les Russes ont une certaine philosophie donc d'approche de ces missions-là. Eux ne veulent faire qu'une mission aller-retour sans se poser au début. Donc d'où ces 14 mois donc de trajet. Les Américains, eux, veulent se mettre en orbite et veulent descendre leurs équipages en ne laissant personne en orbite. Les Russes disent ça c'est pas possible, il faut laisser des gens en orbite. Donc bon, il y a beaucoup de scénarios qui sont en train d'être étudiés. Alors, ce qui est intéressant évidemment, et ça vous l'avez certainement suivi aussi à la télé, c'est qu'on a déjà évidemment des informations puisqu'on fait de la télé-exploration, donc l'exploration à distance sans y être, extrêmement intéressant évidemment pour les scientifiques en question qui réalisent ce genre de... enfin qui font des expériences sur Mars, mais évidemment aussi pour nous puisqu'on apprend énormément de choses sur la toxicité du sol, hein, il y a beaucoup d'oxyde de chrome par exemple qui sont extrêmement toxiques et d'autres choses qui nous intéressent pour essayer d'anticiper les dangers qui peuvent éventuellement, enfin qui sont de toute façon présents sur Mars pour les hommes. Ici, très intéressant, une photo donc qui a été prise par un orbiteur donc autour de Mars après l'atterrissage donc du Lander Opportunity. Vous voyez en bas à droite ici le comment on dit ça en français, le heat shield, la protection thermique du vaisseau donc qui est tombé. Parce que c'est la première protection qui va être détachée du vaisseau. Au milieu, vous voyez l'impact, donc le premier impact qu'on devine assez bien. Et en bas à gauche, vous voyez le parachute et les autres systèmes donc de l'atterrisseur et le rover donc qui s'est déplacé, qui est donc dans cette crevasse ici. Donc, il a pu faire des recherches assez intéressantes. On va voir tout de suite maintenant une photo prise donc de ce rover et on voit au loin le parachute et le système d'atterrissage. Donc on fait de l'exploration, mais pour l'instant elle n'est pas habitée. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que sur toutes les missions automatiques martiennes jusqu'à présent, il n'y en a que 30% qui ont réussi. Donc ça fait un petit peu peur quand on pense qu'il faut encore un facteur 10 au moins, sinon plus de complexité. Pour mettre des hommes donc à la surface. Donc il faudra d'abord maîtriser l'aller et ensuite il faudra maîtriser le retour. C'est encore une autre paire de manches. Donc on étudie aussi le retour puisqu'on essaie de monter une mission vers 2018 donc pour essayer de ramener des échantillons, ce qui nous amènera un pas plus loin si on réussit vers une mission aller-retour sur Mars. Et d'ici 2013, donc nous allons lancer aussi un rover qui fera beaucoup plus d'analyses que le rover américain, qui aura un système de forage pour aller faire des prélèvements dans le sous-sol. Alors pourquoi c'est compliqué? Ben, c'est aussi une question de distance. Alors sur le schéma de gauche, pour donner une idée, donc un ordre de grandeur, ça fait à peu près, donc si vous voyez la Terre en bleu, la Lune serait à peu près à 1 mm de la Terre hein, sur ce schéma-là. Et Mars, quand Mars est le plus proche donc de la Terre, on est à peu près à 50 milliards de kilomètres. Et donc ça fait quand même une sacrée distance. Alors ce qui fait que enfin, l'autre aspect qu'il faut savoir, c'est que Mars tourne deux fois plus lentement autour de la Terre du Soleil que la Terre, ce qui fait que donc les astres se croisent de temps en temps et donc ça nous permet de définir à l'avance quelles sont les opportunités donc pour lancer un vaisseau pour qu'on soit le plus rapidement sur Mars. Alors à droite une petite animation donc plutôt du qu'on a fait en Europe, mais qui est plutôt la philosophie russe, c'est-à-dire qu'on fait un assemblage en orbite basse autour de la Terre. On amène les astronautes à bord et ensuite tout le vaisseau s'en va. Il y a d'autres options essentiellement américaines. Le vaisseau s'en va à vide et une petite capsule donc avec les astronautes va rattraper le vaisseau principal pour gagner du temps et pour avoir moins d'irradiation de l'équipage. Voilà, on verra tout à l'heure un petit peu les durées d'un tel voyage. Le plus compliqué, évidemment, étant d'atterrir et surtout de revenir. Les voyages, on pense quand même avoir assez de technologies pour maîtriser cela. Mais il y a énormément d'inconnus sur les atterrisseurs et sur le fait d'avoir des ergols, donc des systèmes et des moyens de conserver donc tout le fuel qu'il faut dans les conditions qu'il faut pour pouvoir repartir, par exemple. Et ceci sans se baser sur des choses ou de l'eau, par exemple, qu'on pourrait retirer de la surface martienne avec une autonomie à 100%. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de voir ça d'ici 20 à 25 ans en réel. Mais c'est pour vous montrer qu'on travaille énormément sur ce genre de mission qui occupe pas mal de personnes. Voilà, alors, on a parlé un petit peu des durées. Alors, du fait de ce problème de conjonction de Mars et de la Terre, il n'y a en fait que deux options. C'est l'option 1000 jours ou l'option 500 jours. C'est-à-dire que si l'option 500 jours, ça vous permet de rester à peu près 30 à 40 jours à la surface de Mars. Et si vous voulez rester plus longtemps, ce qui est absolument nécessaire, parce qu'en 30 jours, on ne fait pas grand-chose, il faudra que l'équipage s'habitue d'abord à ces conditions-là, après avoir été en apesanteur pendant longtemps. Sortir, faire les premiers tests, etc., ça demandera une semaine. Donc, en fait, c'est pas rentable. Ce qui veut dire que les équipages devront rester un tour de plus, et ça veut dire 1000 jours. Alors, on va voir un petit peu dans le détail. Alors, juste pour vous préciser aussi, on connaît, puisqu'on fait de on connaît les orbites assez parfaitement, on sait déjà à l'avance que le 11 mai 2035, on a une opportunité de vol, et très exactement. Et ces opportunités, donc optimales, arrivent à peu près tous les 2 ans. Voilà, donc si on loupe un tir, il faut attendre 2 ans de plus. Alors, donc, curieusement, donc, pour se mettre en orbite terrestre, ça dure pas longtemps. C'est 7 minutes, 7 à 8 minutes, et on est en orbite. Donc ça va. Première étape, assez facile. Les équipages vont rester à peu près 7 jours en orbite de transfert, bon, selon les scénarios. Et ensuite, c'est parti pour 7 mois de transit. Donc là, aussi, en fonction de type de propulsion, etc., qu'on utilisera, ce sera plus ou moins long, mais grosso modo, 7 mois, c'est une bonne moyenne. Se remettre en orbite autour de Mars, ça aussi, c'est quelque chose d'assez important, parce que les équipages vont être soumis à 6 fois leur poids quand on va faire la réentrée atmosphérique, enfin, il n'y a pas d'atmosphère, mais quand on va être capturé, quand le vaisseau va être capturé par la planète. Et ensuite, comme je vous ai dit, c'est à peu près 40 jours ou 500. Alors, je mis pour les chanceux, parce que, évidemment, selon l'option, il y en a qui vont rester en orbite et qui vont pas descendre. Donc ça provoque certainement des problèmes psychologiques assez importants, puisque Colin, donc, qui avait été qui est resté dans le vaisseau alors que Armstrong et Aldrin sont descendus sur la Lune, il s'en est jamais remis de le fait d'avoir été laissé, entre guillemets, et de ne pas avoir été le héros aussi après. Donc c'est des choses qui sont pas négligeables, hein, du point de vue comportemental. Ensuite, redécoller de Mars, si tout va bien, donc à nouveau très rapide, ça c'est 7 minutes. On est de nouveau en orbite autour de Mars pour faire tout le check-up, etc. Et éventuellement donc de se docker, enfin pas éventuellement, de se docker avec le vaisseau principal. Et le retour, à nouveau 7 mois. Et ensuite, à peu près un quart d'heure pour atterrir sur Terre. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose de pas facile, et surtout pour les équipages qui vont faire ça. Alors, On va parler un petit peu nourriture, puisqu'on est en France. Donc l'un des aspects le plus important aussi pour la psychologie, c'est la nourriture. Puisque dans la culture, hein, on a été élevé avec une certaine optique ou une certaine relation vis-à-vis de la nourriture. Je viens des Pays-Bas, c'est assez différent par rapport à la France. Et du point de vue culturel, c'est des choses qui restent énormément. Par exemple, l'anecdote donc sur la base antarctique franco-italienne. Sont pas très d'accord sur la façon de faire les pâtes et c'est vrai hein, ça devient un problème au bout de quelques mois. Donc pour la station spatiale, bon, évidemment on amène tout ce qu'on, bon, c'est relativement facile entre guillemets hein. Vous avez vu le système ATV tout à l'heure, on peut ramener donc des tonnes et des tonnes de ravitaillement, d'eau, de nourriture, etc., plus ou moins bien bonne, etc., en fonction de si c'est la nourriture russe, américaine ou plutôt européenne. Alors, donc pas trop de problèmes en orbite basse. Le problème vient dès que les missions deviennent longues, donc comme pour les missions martiennes. Alors, si on fait le compte, pour une mission martienne, il faudrait amener 150 tonnes d'eau et de nourriture par personne. Alors, évidemment, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça coûte trop cher, très simplement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recycler. Et c'est là qu'est le plus gros problème, peut-être technique aujourd'hui. Alors, recycler, ça veut dire quoi? Alors, sur quoi on se base? Ça fait à peu près 15 ans que nos ingénieurs étudient donc ce genre de choses qu'on appelle donc le support vie. Pour ceux qui veulent en savoir plus, donc le site Mélissa de l'agence est très très bien fait. Alors, vous voyez ici, en fait, les gens se basent sur ce qui se passe dans un étang. Dans un étang, vous avez de la lumière, vous avez de l'oxygène et vous avez de la nourriture. Et donc tous les déchets sont recyclés. Alors vous avez des poissons qui vont faire des déchets, qui vont être recyclés par des algues microscopiques ou d'autres bactéries, chacune ayant sa fonction. Donc c'est un système qui est tout à fait, qui se régénère. Et donc on a essayé de refaire ça. Alors comment est-ce qu'on met ça dans une boîte? Alors ça ressemble à ça. Donc c'est pour montrer qu'on est déjà assez avancé. Alors c'est vrai que ça ressemble un peu à une usine à gaz. Donc à gauche vous avez un système de dégradation donc de déchets humains. À droite, vous avez donc une culture d'algues qui sont comestibles, donc des algues unicellulaires. L'autre moyen de produire, donc par exemple de l'eau ou un petit peu plus du carburant, c'est de prendre des ressources sur Mars. Donc ça, il faut aller dans un endroit où on a la certitude de trouver un peu d'eau. Voilà. Donc on est en train de mettre tous ces éléments ensemble. Pour recycler complètement, y compris avec desserts. Hein, donc, on sait déjà faire de la culture hydroponique. Mais le problème, c'est qu'il faut tout recycler. C'est-à-dire, si vous avez des déchets, même de plantes, il faudra que ces déchets, la lignine par exemple, du blé, il faut qu'elles soient recyclables. Donc, c'est des problèmes technologiques assez intéressants, mais qu'on est en train de surmonter. Alors ne vous y fiez pas, ça peut être très appétissant. Alors on a fait appel à, et ça c'est du réel, hein, on a fait ça. Bon, évidemment on a fait appel à un chef très connu, je voudrais pas faire de la publicité ce soir, mais donc on nous a préparé avec les ingrédients qu'on peut produire dans ces réacteurs, les algues et d'autres plantes supérieures, donc dans des chambres de culture. On nous a préparé des choses qui sont extrêmement attrayantes et qui sont pas mauvaises. Donc on peut faire un effort et ne pas manger, je dirais, l'américaine ou autre. Voilà. Bon, je pense que c'est important. Bon, peut-être qu'on va pas aller jusqu'à ce point-là, mais quand même, on peut faire des choses. Alors l'autre aspect, donc, c'est le problème de l'impesanteur. Alors évidemment, il y en a d'autres qui ont pensé à recréer l'apesanteur en orbite il y a déjà quelque temps. Donc vous voyez ici 2001 Odyssée de l'espace. Alors à peu près il y a deux ans, on a commencé à lancer un programme donc de centrifugeuse, mais pas aussi grande que ça évidemment. Donc une centrifugeuse à bras courts. Et on a essayé de me dissuader de faire ce genre de programme. Je l'ai fait quand même. Heureusement, parce que les Américains ont arrêté le leur. Donc on est le seul au monde actuellement à avoir ce genre de machine que vous allez voir tourner ici. Voilà. Alors, il y a un lit de chaque côté et il y a une chaise, donc pour faire différents profils. Et donc les premiers tests vont être faits d'ici la fin de l'année. On va mettre des sujets donc à nouveau tête en bas dans des lits pour les déconditionner. Et puis tous les jours ou tous les deux jours, on va les mettre quelques temps dans cette centrifugeuse, donc sur les lits par exemple, pour essayer de recréer ou même d'aller plus loin que la gravité terrestre, pour restimuler les systèmes cardiovasculaires, le système osseux, le système musculaire, avec des systèmes d'exercice donc qui sont incorporés là-dedans. Voilà, donc on est les seuls au monde actuellement à faire ça, et c'est la machine la plus sophistiquée qui existe en ce moment. Donc on va certainement avoir des résultats extrêmement intéressants très rapidement. Alors juste pour vous montrer que même dans l'opinion publique, on sait ce que c'est que le danger d'une mission planétaire. Voilà, bon, ça c'est pour détendre l'atmosphère. Donc c'est un individu qui a oublié sa clé, évidemment, et je pense qu'il était seul. Tant pis pour lui. Bon, voilà, alors plus sérieusement, il y a encore d'autres problèmes à régler que ceux dont on vient de parler. Les radiations sont un gros problème, je n'en parlerai pas plus, mais il y a des problèmes donc de chronicité, il y a des problèmes donc d'éruption solaire avec des problèmes beaucoup plus aigus. Et il faut donc se protéger. Bon, les techniciens et les ingénieurs travaillent là-dessus, c'est pas une mince affaire. L'autre problème, évidemment, c'est qu'il n'y a personne pour vous accueillir à l'arrivée sur Mars. Donc, si vous avez des problèmes, de réadaptation, etc., sur Terre, quand les astronautes reviennent, il y a une foison de personnes autour d'eux. Là-bas, il n'y aura personne. Ce sera un gros problème. Il n'y a pas de retour prématuré, c'est-à-dire que si on y va, si on est sur l'orbite, allez, on ne peut pas freiner, faire demi-tour. C'est pas possible. Il faudra y aller et éventuellement ne pas poser et revenir. Mais il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter une mission. L'autre gros problème que vous connaissez certainement, c'est la communication. Donc on a beau aller à la vitesse de la lumière pour la communication, il faut quand même jusqu'à 45 minutes aller-retour pour un signal quand on sera en opposition par rapport au Soleil. Donc gros problème, vous avez une question à poser, vous avez les réponses plus de 40 minutes après, donc c'est pas évident. Aussi un problème relationnel avec les familles, pas de liaison directe, etc. Très certainement, comme j'en ai déjà un peu parlé, l'aspect psychologique sera certainement le plus important. L'image que vous voyez là de la Terre, vue de la Lune, ben vous l'aurez pas sur Mars. Vous verrez pas la Terre. Et donc il y a un tas de problèmes hein, de psychologie qu'on ne devine même pas aujourd'hui, qui vont certainement se poser. Alors rapidement, donc la proportion des aspects psychologiques aujourd'hui, un peu pour la sélection, un peu pour l'entraînement et surtout du support pendant le vol. Les 4 à 6 mois où les astronautes sont dans la station spatiale. Dans l'avenir, il faudra énormément mettre le point sur la sélection. On ne sélectionnera pas les mêmes personnes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un peu des gens extravertis, du genre pilote, etc. Ce ne sera pas pareil. Ce sera plutôt des personnes comme Isabelle Autissier. Donc des gens qui sont là pour l'endurance et qui peuvent faire un groupe assez solide. Énormément d'entraînement. Et ce qu'on oublie toujours, c'est le support post-vol. Parce que quand ces gens-là vont revenir au bout d'un an et demi, voire 3 ans, hein, comme on en a parlé, je pense qu'il faudra quand même les suivre de façon correcte, parce que ça va pas être évident de se replonger dans la vie terrestre. Voilà, donc un point un petit peu donc vers la fin du... On arrive à la fin de l'exposé, sur les arrière-pensées de l'exploration, toutes les choses ne sont pas si simples. Il n'y a pas que la science, il n'y a pas que le rêve, etc. Mais il y a aussi un peu évidemment de politique derrière tout ça. Tout le monde connaît donc la course à la Lune, donc les années guerre froide. illustré ici par le drapeau américain qu'on voyait partout. La fusée, donc Mercury par exemple, elle n'était pas dédiée au début pour amener les astronautes en orbite. Il y avait plutôt une charge nucléaire au sommet. Ensuite, on a remplacé cette charge nucléaire par les hommes. Donc, je ne fais pas le parallèle avec les Russes. Hein, ça a tout à fait existé, vous le savez. Alors, est-ce que c'est terminé? Alors, ça c'est aussi c'est intéressant parce que les Américains en ont tellement fait que des fois, il y a quelques choses de ce type-là qui sortent pour dire que bon, ils en font peut-être un petit peu trop avec leur exploration un petit peu politisée. Alors, est-ce que c'est terminé? Pas vraiment. Parce qu'en fait, si vous voulez, les Chinois, entre guillemets, s'y mettent. En 2003, ils ont lancé donc leur premier, ce qu'on appelle un taïkonaute, hein, cosmonaute pour les Russes, astronaute pour les Américains, et taïkonaute pour les Chinois. Donc ce taïkonaute, il est resté moins de 24 heures en orbite. Et très rapidement, 2 ans après, ils ont lancé 2 personnes. Et deuxième record, 5 jours en orbite. L'année prochaine, ils vont en lancer 3. Ils vont faire des sorties extravéhiculaires. Et ça va aller très vite. Et en 2012, ils veulent avoir leur propre station spatiale. Et je peux vous dire qu'ils sont en train vraiment d'y travailler. Alors pourquoi est-ce qu'on a des schémas pas très jolis comme celui-là? C'est parce que le programme est top secret. C'est un programme purement militaire. Le premier taïkonaute, on ne connaissait pas son nom avant l'atterrissage. Ceux qui vont voler l'année prochaine, les familles sont au secret. On ne sait même pas qui va voler. Donc contrairement au programme américain lunaire où tout était ouvert, on connaissait les 7 sélectionnés, etc. Les Chinois, c'est pas du tout ça. Hein. Et comme je vous le montre à droite, en 2020, ils pensent être sur la Lune. Je pense que le programme donc américain de retour sur la Lune qui a été lancé par le président Bush n'est pas étranger à ce genre de programme chinois. Mais bon, je n'en dirai pas plus. Voilà. Alors, quelques mots rapides sur les applications, parce qu'il y en a, évidemment. Alors, avant de voir ce genre de choses réalisées, il y a beaucoup de recherches, comme vous l'avez vu, qui doit être faite sur Terre. Et en tout cas, dans mes programmes, j'essaie de faire le plus d'applications possibles pour que ces recherches servent aussi à vous, un peu à tout le monde. Ça peut être dans le domaine de la télémédecine, dans le domaine du recyclage de l'eau, du recyclage de l'air, de la décontamination, qu'il faudra aussi pousser, avoir des recherches très poussées dans ce domaine-là, de la culture hydroponique. Enfin, il y a un tas d'applications qui est possible de faire si on se donne un petit peu un peu de mal et pour ne pas travailler que pour des missions qui vont peut-être arriver dans 30 ans. La même chose est possible dans le domaine de la détection chimique, dans le domaine du monitoring à distance. Vous voyez qu'on peut faire le parallèle avec des problèmes qui sont extrêmement terre-à-terre et de plus en plus d'ailleurs. Alors pour vous donner, donc ça c'est pas que des mots, hein, et on a fait des choses extrêmement intéressantes. Vous voyez ici à gauche un système de recyclage d'eau grise. Donc les eaux grises, ce sont les eaux de douche, les eaux de machines à laver, de lessive. Et donc on recycle ces eaux à 95% en eau potable et de façon continue. Et vous voyez à droite, on a fait l'installation au pôle sud donc de ce système, qui est prévu jusqu'à 60 personnes. Donc on peut parfaitement imaginer qu'on ait ce genre de système qui n'est pas trop compliqué à mettre en œuvre dans le domaine de l'hôtellerie, même peut-être pourquoi pas dans des environnements un petit peu isolés sur Terre. Donc c'est des technologies tout à fait abordables. Et je pense que l'eau sera un gros problème dans les 30 prochaines années et les applications sont assez évidentes, je pense. Dans le domaine de la télémédecine, donc ici la télééchographie, c'est quelque chose qu'on a soutenu beaucoup et qui a été inventé plus ou moins à cause du spatial. Un radiologue, donc, avec sa sonde échographique, fait son diagnostic n'importe où dans le monde. On l'a fait donc via liaison satellitaire dans beaucoup d'endroits, y compris sur un bateau, avec juste un petit robot en bas à gauche qui est donc téléguidé par le radiologue qui a donc à l'écran en direct avec moins d'une seconde de délai, l'image et de la patiente évidemment l'image échographique. Voilà, donc ça, ce sont des applications qui sont en train de se généraliser dans certains hôpitaux périphériques qui n'ont plus de radiologue ou qui n'ont plus de radiologue de garde la nuit. Donc des applications assez intéressantes. Bon, il est clair que ces applications ne justifient pas les investissements, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est un bénéfice. Et il faut faire un effort pour en faire plus. Donc c'est ma seule présentation ici, un petit peu scientifique. On a testé des vibreurs essayer d'améliorer pour avoir moins de pertes osseuses pour les sujets alités. Vous voyez qu'au bout de 60 jours, les sujets qui ont été soumis à cet exercice ont gagné en masse osseuse, alors que ceux qui ne l'ont pas fait, même au bout de 2 ans, n'ont pas rattrapé leur masse osseuse de base. Voilà, donc ça c'est... J'en ai terminé, j'en suis à la conclusion. En fait, j'en ai pas vraiment, je pense que c'est à vous de conclure. Ma conclusion à moi, elle est un petit peu exotique. Alors, qu'est-ce qui sépare l'Homo erectus de l'Homo astronauticus? Alors, on l'a vu, à peu près 2,5 millions d'années. Mais en fait, seulement 250 km, parce que la station, elle est actuellement à 250 km. Et donc, on n'est pas allé, donc, au niveau d'habitation permanente, entre guillemets, on n'est pas allé très loin, en fait. J'ai fait plus de kilomètres aujourd'hui que ça pour venir ici. Bon, ce que j'ai pas dit, c'est que donc cet hominidé, il marche à 8 km/h et que l'astronaute qu'on voit là, il flotte à 8 km/s. Mais bon, c'est un détail. Voilà, je sais pas ce que l'avenir nous réservera, mais l'évolution continue. Voilà, j'en ai terminé avec mes présentations et puis si vous le voulez, on peut passer aux questions.